Side.
Cette année, je suis à fond dans mon stand d'inquisition. Il y a une manivelle intestinale.
C'est la fête médiévale.
Au stand du viking joyeux,
tu peux te faire tatouer les yeux
dans une ambiance amicale.
C'est la fête médiévale.
J'ai inscrit mes deux enfants à l'atelier armement. Ils vont forger une masse d'armes. C'est la fête médiévale. Jeu des lépreux, j'adore. C'est un puzzle avec le corps d'un ado bien boutonneux.
Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble, c'est
femmes se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève.
Azur tout ensemble, ces femmes se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, brille leurs sabots. Écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Écoutez, brille leurs sabots. Écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge, solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots,
c'est la victoire des sardinières.
Bonsoir, c'est Jeudi Noir qui commence sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et ce soir, une fois de plus, José a fait preuve d'une sagacité absolument remarquable en trouvant un morceau de musique totalement inattendu pour un sujet qui est très original, puisque nous allons vous parler de la grève des sardinières. Et voilà, donc on était assez contents de cette chanson parce qu'on s'y attendait pas.
un peu décalé quoi.
Un peu décalé, voilà, c'est ça. Toujours en décalage avec José. C'est ouais, fin.
Le
c'est,
pape
c'est,
du décalage.
C'est remarquable. Et donc voilà, après cette intro, je suis un peu à sec, j'avoue. ce soir, donc Morane arrive avec un livre. Anne Crignon, une belle grève de femmes, publiée chez Libertalia l'année dernière, en 2023. Enfin, non, il y a deux ans maintenant, en 2023.
Oui.
Et
ça date un peu.
Pardonnez, ça date un peu de 1924. Et puis Jean Mathias, lui, a un livre publié aussi chez Libertalia, c'est assez étonnant, de Tiphaine Guéret, qui s'intitule Écoutez gronder leur colère. Il y a encore un rapport avec ta chanson, c'est fou. Voilà, là, mais c'est incroyable. Et donc, c'est qui s'intitule Les héritières des peines sardines de Douarnenez. Donc, ça se passe dans la même ville, Douarnenez, à la même époque, 1924. Donc, j'imagine que c'est deux livres qui parlent à peu près de la même chose et qui parlent aussi de la chanson. Alors, certains y verraient une coïncidence. Moi, j'y vois un destin. Mais, pour citer Matrix, je pense que ça manquait. Mais je ne sais pas comment vous allez vous répartir la parole, ni s'il va falloir vous séparer.
On comptait sur toi un peu, parce qu'en fait, dans la mesure où c'est un cadime l'émission, on a.
C'est celui qui a le caban qui décide.
Justement, ça pose un problème, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de trois, mais il y a deux cabans ce soir. Donc bon, on est un peu perdu. Mais donc voilà, alors, bon, j'imagine que malgré toutes mes sottises, les auditeurs et les auditrices ont une petite idée de quoi nous avons parlé. C'est une grève qui a été très célèbre à un temps, qui a été un peu sortie de l'oubli depuis récemment, ces dernières années. C'était des femmes c'est essentiellement des femmes.
Dont on a fêté le centenaire. Hein,
on a fêté le centenaire, voilà, c'est ça. C'est 1924-2024.
L'actu de l'émission est là.
L'actu de l'émission est là. Donc, on fait une grève centenaire. Et c'est une grève donc, qui a eu tout un tas de conséquences, qui a entraîné d'autres grèves, qu'elle concernait une partie de la population ouvrière féminine qui était chargée de mettre en conserve les sardines après les avoir préparées, les avoir cuites. Et c'était des conditions de travail épouvantables. Pendant que leur mari était souvent en train de pêcher, sinon en train de boire. Ce qui n'est pas incompatible, parce qu'ils peuvent aussi boire la tasse. Je suis inarrêtable. Bon, mes camarades dans le studio sont complètement, navrés, consternés. Bon.
C'est pour ça qu'ils vont dire. C'est incroyable, cette espèce de racisme primaire anti-breton.
Que dire
de la part de quelqu'un qui n'aime pas l'eau, quoi. Faut quand même dire les choses.
Voilà. Et donc, et donc voilà, il y a deux livres. on essaie de se rattraper, de rattraper un petit peu les choses sérieuses après ces accusations calomnieuses qui donneront lieu à une plainte. Donc, alors, on tire à la courte paille. Qui veut commencer? Jean-Mathias, commence. Je te sens plein du désir de commencer. Ensuite, moi, ça va me donner le plaisir de t'arrêter.
Je suis plein de désir.
Voilà, moi, je suis plein de plaisir de t'arrêter.
Non, mais sur la présentation des deux livres, donc les deux sont chez Libertalia. Et les deux, effectivement, ont été publiés à l'occasion du centenaire, parce que, bon, tu l'as dit, voilà, on a fêté ce centenaire l'an dernier, la grève est de 1924, à Douarnenez. Par contre, c'est deux livres qui sont assez différents dans leur projet, parce que celui d'Anne Grignon, là, Une belle grève de femmes, est un livre plutôt historique.
Oui, qui retrace vraiment l'histoire et le déroulement de la grève des peines sardines.
Voilà, et alors que celui de Tiphaine Guéret, donc, qui est celui publié l'an dernier, Écoutez qu'on ait leur colère, c'est une enquête. Alors, Tiphaine Guéret, les journalistes à CQFD, qu'on salue, et c'est plus une enquête aujourd'hui sur, comme le sous-titre l'indique, les héritières des peines sardines. Donc, en fait, c'est une enquête sociale sur les ouvrières dans les usines de sardines, aujourd'hui, à Douarnenez. Et donc, c'est une espèce de coup de sonde aussi dans la classe ouvrière française d'aujourd'hui, et qui permet de mesurer aussi tout ce qui la sépare de celle qui a mené cette grève en 1924, donc il y a maintenant un siècle. Donc en fait, les deux livres sont assez complémentaires de ce point de vue-là. Alors moi, j'ai lu et beaucoup apprécié celui de Tiphaine Guéret, là, Écouter gronder leur colère, parce que je trouve que c'est une enquête qui est très, qui est intéressante, vraiment, et assez honnête, je dirais, sur ses conclusions, et sur on n'est pas dans la mythologie ouvriériste, quoi. On n'est pas dans la mythologie voyeuriste, c'est très factuel, c'est très informé, il y a plusieurs mois d'enquête derrière, et c'est une manière qui est assez plaisante de replacer en fait une grève qui a presque un statut de mythe dans l'histoire du mouvement ouvrier français, celle de 1924, de la replacer dans le cadre d'une enquête qui pour le coup est complètement contemporaine. Et c'est ce que fait Tiphaine Guéret, c'est-à-dire qu'elle rappelle rapidement au début d'ouvrage en quoi justement cette grève des peines sardines, des têtes de sardines, je traduis du breton pour ceux qui n'ont pas forcément les bases. Donc c'est, en quoi cette grève des...
Tu parles d'un dialecte.
Non, c'est... D'accord. On va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais pourquoi effectivement cette grève des peines sardines de Douarnenez de 1924 est devenue une espèce de mythe du mouvement ouvrier français? D'abord parce que c'est une grève qui a été conduite essentiellement par des femmes, puisque les ouvrières des usines sardinières étaient essentiellement des femmes. Tu l'as dit, leur mari breton était en train de grommeler leur patois en s'alcoolisant sur des bateaux de pêche. Et elles, pendant ce temps-là, s'occupaient effectivement du traitement des poissons. Donc c'est une grève de femmes déjà, donc c'est pas si fréquent dans le mouvement ouvrier. Elle insiste aussi sur l'importance des leaders de cette grève-là. C'est une grève avec des figures un peu emblématiques qui ont marqué l'histoire de cette grève et puis du mouvement ouvrier au-delà. Alors il y a d'abord une ouvrière qui a été un peu en lideuse de cette grève, c'est Joséphine Pincalette, qui a été aussi la première femme élue au conseil municipal de Douarnenez. C'est une figure à la fois ouvrière et féministe. Il y a le maire qui était en soutien, le maire de Douarnenez de l'époque, et en soutien Daniel Le Flanchec, alors qui est aussi une figure parce que il est maire communiste à l'époque en 1924. Il va mal finir, on peut le dire tout de suite, puisqu'il va finir du côté de chez Doriot et des collaborationnistes français quand même. Mais il était bien parti. Avec des sympathies plutôt anarchisantes, une proximité avec la bande à Bono, avec Victor Serge, tu disais, Morane. C'est un tatoué, un dur, voilà. Il est aussi, évidemment, il a été un soutien important dans cette grève de 1924 et il a contribué à la faire connaître. Et puis, il y a des figures nationales parce que cette grève, elle a eu un écho national pour des raisons un peu historiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées, alors, d'une part, à la fondation de la CGTU à l'époque, c'est-à-dire de la Confédération Générale du Travail Unifiée, qui en fait était la plus proche du Parti communiste et qui restait dans une culture révolutionnaire, du syndicalisme révolutionnaire, en tout cas qui a porté aussi, en dépit de sa proximité avec le Parti communiste, une culture du syndicalisme révolutionnaire.
Et elle a été donc il y a Charles Tillon par exemple hein, le qui sera pour le coup lui un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale qui a participé aussi à l'organisation de cette grève. Du côté syndical c'est Lucie Colliard qui était juste une figure de la CGTU qui a beaucoup contribué à faire connaître cette grève, qui a donc lancé un mouvement de solidarité un peu partout en France et qui a été à l'origine, comme tu disais Morane, d'une vague de grève derrière. Hein. C'est une grève qui a été très dure. 46 jours, si je me trompe pas. Une répression assez dure. Mais il y a ce contexte national et l'histoire du syndicalisme français qui a contribué du coup à en faire vraiment un épisode connu et voilà, quasi mythologique, hein, je dirais. Il y a à la fois de l'histoire factuelle et puis la portée en fait de cette grève-là. Ça n'a pas disparu aujourd'hui. Alors tout le monde n'a pas la chance de connaître Douarnenez autour de cette table, parce qu'il y en a qui sont allergiques à l'humidité. Mais les traces en fait de cette grève, elles sont toujours présentes, hein, notamment sur les murs de la ville. Et en fait, c'est un peu de cela que souhaite partir Stephen Guerrier. Il y a deux niveaux, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, pour quand on va Douarnenez, il y a le niveau du mythe qui est en fait assez visible et assez lisible sur les murs de la ville, mais aussi dans certains commerces. Des commerces, c'est une ville qui désormais est assez dédiée au tourisme, notamment l'été, hein, parce que c'est un lieu qui est magnifique. Et il y a une forme de marketing aussi qui s'est mis en place autour de l'histoire de cette grève et de ces figures. On va trouver des petits panneaux qui rappellent justement la gloire de cette lutte-là dans des épiceries fines qui vendent des sardines aromatisées. Donc ça, c'est millésimé, ouais. Donc ça c'est un niveau qui est toujours présent, qui est là dans la ville. Mais en fait, il y a aussi une réalité, alors pour le coup, qui est moins mise en avant et moins marketée, c'est le fait que Douarnenez reste un port producteur de sardines, de conserveries, et qu'en fait, les usines qui étaient présentes en 1924 sont toujours présentes en ville, et que Douarnenez reste un des principaux ports producteurs de poissons de conserve, notamment aujourd'hui. Alors, elle le rappelle au début, hein, là, page 15, elle dit qu'un KA, Douarnenez maintient une activité importante. En 2022, le port du Rosmeur, donc c'est le port de Douarnenez, a vu débarquer 17 322 tonnes de poissons, ce qui fait de la ville le troisième port français en termes de tonnage. Il y a trois conserveries toujours en activité. Une petite TPE artisanale, Kerbrian, et deux entreprises beaucoup plus imposantes, les établissements Paulet et la maison Chancerel. Et alors, les marques qui sont associées à ces deux usines, elles sont très connues, puisque dans le cadre des établissements Paulet, l'usine Paulet, c'est la marque Petit Navire. Et puis, la maison Chancerel, c'est la marque Connétable. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que ce sont on est dans l'industrie de l'agroalimentaire. Et Douarnenez reste une ville ouvrière, puisqu'il y a des usines de traitement et de conserverie, et un emploi ouvrier encore très important dans la ville. Et ce qui a intéressé Stephen Guerrier, et je trouve que c'est, pour le coup, c'est une approche qui est intéressante, c'est d'essayer de se demander finalement ce qui reste, en tout cas, où on en est, pour être exact, de la culture ouvrière féminine à Douarnenez aujourd'hui, à l'occasion du centenaire. Et donc, en fait, c'est une enquête. Alors, elle est journaliste, c'est QFD, donc c'est une enquête sociale qui lui a pris plusieurs mois, où elle va interroger comme ça un certain nombre d'ouvrières en activité elle va enquêter aussi dans les usines, elle se fait embaucher, embedded, comme on dit, dans les usines, notamment l'usine Chancerel. Et elle essaye de dresser une espèce d'état des lieux, une espèce de coup de sonde sur la classe ouvrière féminine aujourd'hui dans ces usines de Douarnenez. Et ce qui lui permet, comme je disais tout à l'heure, de lire en fait l'état de cette classe ouvrière aujourd'hui féminine et de la comparer à celle de 1924. Alors c'est pas un bouquin d'historienne, c'est pas un bouquin sociologique, mais ça a le mérite de remettre effectivement en avant cet aspect en fait de la ville, avoir une histoire mise en perspective aujourd'hui à partir de ces entretiens. Le point commun, puisqu'il y en a quand même un, c'est qu'en fait, elle part en fait d'une Il y a quand même eu une grève en 2024 à Douarnenez. Alors, elle n'a pas duré 46 jours, elle a duré un jour. Ouais. mais voilà, aux usines Chancerelle, justement, donc aux usines menées par des ouvrières d'aujourd'hui, pour des questions de contestation du management, des questions de salaire, des questions de conditions de travail qui sont comparables, toute proportion gardée, à celles qui avaient poussé et déclenché la grève en 1924, donc il y a un siècle. Donc son enquête, elle est centrée là-dessus, sur l'usine Chancerelle et sur cette main-d'œuvre-là. Et pour le dire vite, en fait, ce qu'elle observe, bon, c'est des choses qui sont pas forcément très surprenantes. C'est que on a un prolétariat ouvrier qui est essentiellement féminin, là encore, mais qui, à la différence de 1924, est beaucoup plus communautarisé qu'il ne l'a été il y a un siècle. Puisque en fait, l'usine Chancerelle recrute beaucoup de néo-arrivants, de migrants, de personnes exilées, hein, de femmes seules, à la fois en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans les dom-toms, en particulier à La Réunion, avec une gestion qui reste assez héritière, je dirais, d'un colonialisme bien de chez nous. Alors pour le coup, on ne peut pas leur reprocher de discrimination à l'embauche, hein, parce que elle recrute assez largement, Mais ça a pour effet, effectivement, de créer alors de nouvelles solidarités communautaires qui reposent sur des affinités de langue, tout simplement, de culture aussi parfois, et en même temps, qui rend parfois plus difficile aussi des mobilisations collectives et une identification à ce qui serait la classe ouvrière ou une classe ouvrière, y compris féminine, dans le cadre qu'elle étudie, elle. Donc c'est ça un peu le cadre qu'elle développe dans son enquête. Encore une fois, très, très factuel, qui est pas... Mais c'est assez passionnant comme enquête, parce que c'est très concret, elle décrit les machines, elle décrit les pauses, elle décrit les différentes tables aussi au pause déjeuner, elle décrit les trajectoires des unes et des autres, elle décrit la désimplication aussi à l'égard du travail et de la vie au travail, le fait que il est difficile, ou il semble difficile aujourd'hui, de créer du collectif à partir du travail, que ce soit dans un cadre syndical ou même plus informel. Et en fait, elle raconte tout ça et elle donne la parole aux ouvrières sur toutes ces questions-là. Il y a la question du management aussi, évidemment, qui est évoquée, avec la mise en place de ce qu'on appelle le lean management aujourd'hui, c'est-à-dire une pression accrue sur la productivité avec des diagrammes de production qui sont mis en permanence sous les yeux des ouvrières pour maintenir et augmenter les cadences. Elle parle aussi évidemment de la dureté de ce travail-là, la dureté physique. C'est un travail qui se fait au 2-8, donc avec des conséquences sur le sommeil, des troubles musculo-squelettiques, des troubles de la vigilance, des problèmes d'obésité à long terme, de dépression évidemment. Donc sur la dureté physique de ce travail-là. Et puis sur l'isolement relatif de ces femmes, notamment lorsque, pour certaines, elles sont arrivées en France parce qu'elles ont rencontré quelqu'un ou parce qu'elles ont rejoint des membres de leur famille sur place. Il y a cette dureté en même temps à construire une vie qui soit pas, justement, qui se réduise pas à l'usine et puis au rythme des machines. Et elle parle de tout ça très bien. Avec, s'il y a une pointe d'espoir quand même dans le livre, c'est justement cette grève là de mars 2024. Où là, il y a eu un petit changement de casting à la tête de la CGT Chancerelle, qui semble avoir commencé à prendre en compte justement ces difficultés-là, et y compris en termes d'organisation, comment passer au-delà des divisions communautaires ou de l'isolement communautaire, pour dire les choses plus simplement, comment trouver des interprètes de chacune des communautés présentes sur le site pour faire passer le mot d'ordre, pour convaincre, et puis pour faire en sorte que du coup, à l'instant T, tout le monde débraye en même temps. Et ça a marché, en l'occurrence, ça a marché. Alors, c'est pas 46 jours. Il n'y a plus les figures héroïques des gros durs et tatoués et de la bande à Bono de 1924. Mais il y a toujours, nous dit-elle, effectivement, ben voilà, le souvenir, en tout cas, de cette journée de lutte-là. Et c'est pas rien. C'est pas rien, même si, évidemment, on n'est plus dans le mythe, hein, de la grève héroïque des peines sardines de 1924. Hein. On est dans autre chose. Donc voilà pour la présentation rapide, hein, de ce livre de Tiphaine Guéret.
On va peut-être faire une pause musicale, et puis ensuite, ben, on donnera la parole à Morane, qui va, elle, nous raconter le mythe, parce que tout à l'heure, je la voyais qui était en train de ricaner. Donc j'imagine qu'elle a des choses à dire. Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et vous venez d'entendre un groupe formidable, fondé sur des jeux de mots formidables, Édouard Nenet et les Princes de Bretagne, l'indigestion qui vient. Donc devant cette avalanche de références, je ne peux que me comporter comme Captain America. Et pour ceux qui regardent les trucs, je pense que José sera sensible à cette allusion. Et donc après, tais-toi. Et donc après le long monologue de Jean Mathias sur le livre de Tiphaine Guéret, écouter gronder leur colère, les héritières des peines sardines de Édouard Nenet.
Ouais. On m'excusera de répondre aux questions comme toi.
Non, mais tu respires même pas quand tu parles. Comment est-ce qu'on peut placer une question? C'est pas possible. D'ailleurs, oui, je veux inscrire Jean-Mathias pour le concours de.
Mais t'as pas demandé d'ailleurs où c'était Édouard Nenet exactement? Géographiquement, je veux dire.
On m'a dit que c'était pas loin de Kaamelott. Et donc, maintenant, je m'apprête à un long monologue de Morane aussi, parce que quand même, faut pas déconner. Au sujet du livre donc, d'Anne Crignon, Une belle grève de femmes. Et là, il semble que c'est plus historique, moins journalistique, et que ça s'intéresse moins au présent, ouais. Plus au passé.
Oui, alors, Anne Crignon, c'est quand même une journaliste. Hein. C'est pas non plus une sociologue, mais elle fait quand même une historienne. Mais elle fait un travail de recherche assez intéressant parce que son enquête démarre dans les années 90, en fait, quand même. Et elle se base sur les archives de ce moment-là, donc sur des articles de presse, notamment là, le titre du livre « Une belle grève de femmes » reprend en fait le titre de l'article qui avait été écrit à l'époque par Lucie Collière, dont Jean-Mathias parlait tout à l'heure, et qui avait été publié dans l'Humanité, en fait. Donc, voilà, ça reste une enquête quand même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle interroge, en fait, elle a des témoignages de femmes qui ont vécu ce moment-là. Donc, c'est dans les années 90, donc ce sont des femmes qui sont déjà assez âgées au moment où elle les interroge. Ou alors des filles de ces femmes qui ont vécu indirectement la grève aussi. Et alors le livre est assez facile à lire en fait, et il se lit très bien et il est assez réjouissant. Et donc effectivement il retrace l'histoire. Il y a des photos, ouais.
C'est toujours sympa.
C'est plutôt pas mal. Et
toi, t'aimes bien toi les photos.
Ouais. C'est facile à lire.
Et donc voilà, c'est un livre qui se lit bien et qui fait justement le point sur plusieurs figures intéressantes, donc Daniel Leflanchec, Lucie Colliard, Joséphine Pencalette aussi. Voilà, donc il est très bien écrit et retrace la grève, mais aussi un peu le mode de vie en fait de ces femmes à l'époque, et comment est-ce que comment la grève en fait a pu émerger sur un terreau de vie quotidienne aussi, notamment elle évoque le rôle particulier du chant. Qui à l'origine est utilisé par, enfin dans les usines en fait, par les peines sardines pour se donner du courage, mais aussi par les contre-maîtresses pour donner ce que tu disais tout à l'heure, un certain rythme, une cadence en fait qui était assez soutenue justement dans ces usines, hein, une forme de travail à la chaîne. Le rôle aussi. Alors ce qui est intéressant aussi dans le livre, dans ce livre-là, c'est le rôle de la religion. Parce que pendant la grève, l'Église en fait était très largement opposée en fait à la grève, et pour autant, les peines sardines étaient des femmes
pieuses
en fait, qui se rendaient, qui tenaient le drapeau rouge la journée et qui allaient tout de même à l'église assez régulièrement. Donc, elle met en avant comme ça plusieurs particularités en fait de ce mouvement-là qui sont assez cocasses et intéressants. Et voilà, elle recontextualise aussi un peu l'origine de cette grève. Donc Jean-Mathias disait tout à l'heure que c'est une grève, donc 1924, qui est liée en fait aux conditions de, enfin au salaire, voilà, pardon, au salaire. En fait, le motif de la grève, c'est elle demande une augmentation de salaire parce que il y a eu des premières grèves en fait à Douarnenez, faites par les femmes et les peines sardines déjà en 1905 en fait. Donc leur mère en fait.
Peines sardines.
Tête de sardine.
Tête de sardine.
Comme
il l'a dit tout à l'heure pour les nombres tenants.
Oui.
Mais on explique d'où vient le surnom. C'est le surnom elles l'ont prise elles-mêmes.
Je sais pas si tu sais.
Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle, quoi.
C'est comme ça, oui. C'est qui? Est-ce que c'est le méchant patronat? Est-ce que.
Je crois qu'elle-même, elle utilise hein, ouais. Les peines sardines, les sardinières.
Ouais, les sardinières, d'accord.
Les filles de l'usine, elles s'appellent, ça, c'est okay. Écrit. Après, les peines sardines. Je sais plus. Bon. Et donc, en 1905. Leur mère, à l'époque, avait déjà commencé une première grève parce que pour être payée en fait à la journée et non pas aux 1000 sardines, quoi. Parce que le fait d'être payée aux 1000 sardines, les sardines étaient comptées par les contre-maîtresses à l'usine et ça donnait lieu à des salaires largement revus à la baisse en réalité. Donc elles ont obtenu le paiement à la journée.
C'est 1905.
C'est 1905, première grève qui a donné des gains de cause aux peines sardines à l'époque. Et ensuite, voilà, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un essor de la demande de conserves, notamment de conserves de sardines, etc. Et plusieurs grèves aussi qui ont été menées. Et on a obtenu à ce moment-là la journée de 8 heures. Voilà, maximum de travail de 8 heures. Et pour si je ne me trompe pas, les filles n'ont pas le droit de travailler avant 12 ans, journée de 8 heures. Et si le travail est de nuit, les horaires sont censés être majorés. En tout cas, dans la loi, c'est inscrit comme ça. Et ce qui va faire débuter la grève, c'est qu'en fait, les patrons de l'époque, en Bretagne, notamment à Dordogne, ne respectent pas, en fait, la loi. Et donc, les filles commencent à travailler extrêmement tôt, dès 8 ans, en réalité, comme les autres femmes, et jusqu'à 80 ans, assez facilement. En fait, c'est des femmes qui s'arrêtent jamais de travailler parce que...
Il n'y a pas de système.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de retraite, il n'y a rien.
Exactement. Donc, en gros, elles sont à l'usine de 8 ans à 80 ans. Et dans des conditions, effectivement, qui sont décrites comme assez extrêmement rudes, en fait, parce que... alors, il y a des espèces de... C'est tout un village, en fait, qui est concentré autour de la pêche. Donc, effectivement, les hommes sont marins et partent pêcher. Et les femmes, dès que le poisson arrive au port, en fait, sont sonnées pour aller travailler à l'usine. Donc, c'est même pas des horaires réguliers, c'est dès que la pêche arrive... en pleine nuit, enfin, il n'y a pas d'horaire en fait pour le poisson, et donc elles sont, elles vont à l'usine directement et elles peuvent enchaîner 2-3 jours sans quasiment de pause, en tout cas sans nuit quoi, où elles ne rentrent pas vraiment chez elles. Donc avec la pause déjeuner, elles enchaînent des conditions de travail comme ça. Donc on est très très loin de la journée de 8 heures et on est aussi très loin de l'âge minimum légal de 12 ans pour le travail. Mais voilà, les patrons à cette époque-là ne respectent pas ça. Et il y a eu plusieurs accidents, en fait, qui ont valu à des peines sardines d'être licenciés, notamment des pertes de doigts, des brûlures, etc. Et voilà, donc la grève débute comme ça, où elles demandent... elles sont payées l'équivalent de 80 centimes de l'heure, et elles demandent un franc 25, je crois que c'est ça, enfin voilà, une augmentation d'un franc 25, et c'est comme ça que va débuter la grève, en fait.
La grève de 24.
La grève de 24, voilà.
Et en 24, elle travaille toujours aussi jeune ?
En 24, elle travaille toujours aussi jeune, oui, d'accord. Oui, justement. Hein.
Okay.
Et un des premiers points d'appui, c'est la loi.
Juste interromps juste deux secondes, vraiment deux secondes. ce qui me frappe, en fait, dans ce que tu racontes, c'est le fait que... Alors, évidemment, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que les conditions de travail que décrit Tiphaine Gaël là aujourd'hui, elles achoppent exactement sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce n'est plus la journée de 8 heures, mais c'est les 2-8. Mmh. Donc, l'irrégularité, en fait, des emplois du temps au travail, c'est les cadences, c'est le non-respect des employeurs, du patronat. Alors là, en fait, ça se joue aujourd'hui sur le réglage des horaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de suspicion, mais ce n'est pas nouveau non plus, mais une suspicion sur le réglage des horaires. Horloge et des indicateurs horaires à l'intérieur même de l'usine, avec ces enjeux-là, et évidemment les questions salariales. Alors les chiffres ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, c'est pas la peine de... Voilà, il n'y a pas d'intérimaire de 8 ans aujourd'hui dans les usines chancerelles, ça c'est clair. Mais en revanche, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est l'espèce de permanence finalement des enjeux de la lutte au travail, je dirais, dans le cadre du capitalisme industriel, quoi. C'est même si évidemment les employeurs ne sont pas les mêmes, mais c'est voilà, la même... les mêmes invariants, quoi, voilà, sur rythme de travail, conditions de travail, temps de travail, rémunération du travail, et effectivement cette espèce de méfiance permanente et d'abus permanent de la part de l'employeur sur la flexibilité à la fois du temps d'activité et puis des conditions de rémunération, quoi. Donc
et la grève dont tu parlais a été victorieuse, là?
Oui, elle a été victorieuse, parce qu'elle est massive, en l'occurrence là, celle de 2024, et puis surtout ils avaient perdu l'habitude, en fait, les patrons d'avoir des débrayages massifs, donc là ça leur fait tout drôle, et effectivement une journée c'est bouclé, quoi. Ouais. C'est bouclé. Bon, après, tu as aussi des histoires qui tiennent la production à flux tendu d'aujourd'hui. Hein. Il y a plein de choses là-dessus aussi, hein, dans le livre de Tiphaine Guéret, y compris sur le fonctionnement du capitalisme industriel moderne aujourd'hui. Hein. Le fait qu'il soit internationalisé, qu'il soit aussi dépendant des flux, voilà, d'un flux continu. Donc, mais voilà, bon, c'était juste une remarque.
Et en 24, la grève part comment ?
Bah, c'est ce que je disais quand t'écoutais.
Oui.
Pas. Michel.
Avant ton interruption. Elle part sur les salaires, et tu disais une augmentation de salaire de 80 centimes.
Oui.
À 1 franc 24.
Alors le slogan, c'est PEM Préalvo, ce qui signifie en fait 1 franc 25, quoi.
1 franc 25, ouais.
C'est le slogan. Et voilà, bon, la grève se construit autour de toute la culture de travail des sardinières, donc le champ. Mm-hmm. Etc. Et ce qui en fait une grève particulière, c'est peut-être plusieurs points. Donc c'est une grève de femmes déjà, qui va être massive ensuite, et qui inquiète en fait quand même les pouvoirs centraux à l'époque, parce qu'il y a plusieurs journalistes, donc Lucie Colliard notamment, qui vont monter et qui vont à la fois soutenir et documenter la grève en fait.
Les sardinières, elles sont syndiquées, elles sont pas syndiquées?
Non, justement. Non. Alors Lucie Colliard va beaucoup participer à la création d'une culture politique un petit peu de lutte en tout cas chez les sardinières, et il y a toute une culture militante qui va se mettre en place à ce moment-là. Une organisation de caisses de grève.
La ville a quand même un maire communiste.
La ville a un maire communiste qui n'y est pas pour rien. Donc ouais. Daniel Leflanchet, qui est une figure très importante en fait de cette grève, qui va soutenir les peines sardines, qui va s'opposer souvent et fortement au préfet.
Aux flics
aussi, mmh. Oui, voilà, qui va être démis de ses fonctions un certain temps, puis qui va revenir, qui a été une figure très importante de cette grève, et qui va participer justement aussi à l'élaboration d'une garderie pour les enfants des peines sardines. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent en fait. Pour pouvoir survivre aussi, ils ont organisé une autre méthode détournée en fait de vente des sardines. C'est-à-dire que ils ont pris un peu possession à un moment
de l'outil de production
en vendant directement
les sardines en
Île-de-France, au contact que pouvait avoir notamment Daniel Leflanchec, mais aussi Charles Tillon, etc. Donc qui est monté pour soutenir la grève aussi. Il y a toute une organisation en fait de la lutte qui s'est faite à ce moment-là. À l'aide aussi de soutien qui venait soutenir la grève. Et alors évidemment les patrons des usines ont envoyé des briseurs de grève, ont tenté de contourner un peu en faisant appel à de la main d'œuvre qui venait de plus loin, sauf que finalement ce qu'ont réussi aussi à faire assez rapidement les peines sardines et la médiatisation de cet événement, c'est d'entraîner avec elles toutes les autres sardineries. Toutes les autres usines, en fait, dans la lutte. Et donc, ça leur coupe un peu l'herbe sous le pied à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est une grève qui va devenir, en fait, assez massive.
Parce que ça dépasse donc les frontières de Douarnenez.
Oui, ça dépasse les frontières
de Finistère.
En Bretagne.
Bretagne, quoi.
Et finalement, c'est une grève qui est très bien racontée dans le livre, qui est assez rude, parce que finalement, il n'y a pas du tout d'autres moyens de survie pour ces femmes-là. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est une grève de femmes.
Alors, que font leurs maris pendant ce temps-là, à part boire?
Que font leurs maris?
Sur leur bateau.
Au début, ils prenaient pas du tout part à la grève. Eux, en fait, ils continuaient d'aller pêcher. Ils soutenaient donc pas trop ce mouvement-là. En tout cas, ils restaient en retrait du mouvement.
Ils n'avaient peut-être pas vu, en même temps, s'ils étaient bons.
et donc, les hommes ont rejoint.
T'as jamais vu Michel Bourret, toi, madame?
Si.
Au sein d'une grève, il ne s'aperçoit de rien. Non,
c'est, je peux te dire, c'est
halte à la calomnie.
Donc ils ont rejoint la grève, les hommes.
Ils prennent le zodiac, la canne à pêche, tu vois, comme tous les jours. Hein.
Provocation.
Donc à l'origine, c'est une grève de femmes quand même. Et ce qui est aussi sympa à lire là-dedans, c'est que la préfecture et la façon dont c'est relaté ensuite dans les rapports qui sont envoyés au ministère, etc., c'est que ce serait à l'origine une grève des marins, en fait, auquel ensuite auraient pris part les femmes. Bon, ce qui n'est pas vrai, effectivement, mais dans les textes, en tout cas, ça a été...
Premier temps, c'est relaté comme ça.
C'est relaté comme ça, voilà. Ouais. Donc voilà, il y a un point intéressant de cette grève-là, c'est qu'effectivement, à l'époque, c'est une grève... deux femmes qui aussi ont une culture catholique assez importante, et pourtant l'Ecclésia était justement très opposée à la grève, plutôt du côté des patrons. Et pourtant, effectivement, c'est une grève qui a été très largement victorieuse.
On va faire une petite pause musicale. Pour ensuite redonner la parole à Jean-Mathias, trois quarts d'heure. Et diffuser un morceau de musique toujours pertinent choisi par José.
Yeah, stop us!
C'est Jeudi Noir qui reprend, donc... On est à deux doigts de s'entretuer dans le studio, mais tout va bien. Et comment dire, Jean-Mathias, c'est insupportable, comme toujours. Donc là, vous venez d'entendre...
Il ne faut pas me chauffer sur la Bretagne, c'est fou que tu en même temps tu le sais. Et voilà.
Mais il fait froid en Bretagne, comment on peut te chauffer sur la Bretagne? Alors, et là, vous venez d'entendre un morceau qui de Slutsville qui s'appelle Can't Stop Us. Et oui, c'est un peu comme quand Jean-Mathias parle. Et... Et donc, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, Jean-Mathias, donc vous parlez d'un livre de Tiphaine Guéret, Écoutez gronder leur colère, au sujet donc d'une version réactualisée de la grève des sardinières à Douarnenez, donc dans le fief breton de Jean-Mathias. Merci. Et, et Morane nous présentait le récit justement de cette grève historique. Dans un livre d'Anne Crignon, Une belle grève de femmes. Les deux livres donc, sont chez Libertalia. Et donc, alors Jean-Mathias était prêt à reprendre la parole, nous on n'était absolument pas surpris. Donc Jean-Mathias, qu'est-ce que tu voulais nous dire de plus?
De plus, je voulais parler du livre de Tiphaine Guéret.
Vas-y.
Facile, enfin, si, voilà. Non mais, blague à part, en fait, je trouve ça vachement intéressant d'avoir les deux livres un peu en parallèle, parce que... enfin, il y a des choses qui frappent quand même. C'est le fait que ce que disait Morane, c'est que cette lutte et cette grève de 1924, l'aspect religieux, communautaire, féminin aussi de cette grève-là. Je ne sais pas si on peut parler d'une grève féministe, c'est une grève.
Parce que d'ailleurs, ça aboutit sur des femmes qui ont le droit à un salaire de 1 franc et les hommes qui ont 1 franc 50, et il n'y a aucune revendication en tant que telle féministe.
C'est ça. Mais en fait, montrer comment. Alors, cette lutte-là, malgré tous les. Déjà, les conditions hyper dures dans lesquelles elle se déclenche, l'opposition de l'Église, comme tu dis, ça, c'est vachement très intéressant quand même. Le fait que tu es à la fois une espèce de solidarité communautaire qui s'appuie aussi ça. En fait, ce que ça montre un peu aussi, et ce qu'on comprend ça, c'est que la réussite d'une grève comme celle-là, elle tient à plein de choses qui sont difficiles parfois à mesurer, mais il y a des formes de vie communes, voilà, des formes de vie communes, il y a un quotidien partagé, et pas simplement un quotidien, je dirais, voilà, de temps de travail, mais en fait, ce quotidien, il s'intègre dans une culture, en fait, aussi commune et de solidarité commune. Ce qui s'improvise pas, et donc dans le livre de Tiphaine Guéret là sur les ouvrières sardinières aujourd'hui, on voit effectivement aussi la difficulté qu'il y a à construire et à trouver, enfin, un quotidien et une culture commune aussi qui puisse servir un peu de terreau à ces mobilisations syndicales ouvrières. Je pense que c'est aussi important dans ce que tu disais, c'est l'importance de l'organisation quand même, c'est que c'est pas une grève spontanéiste, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a un contexte historique, il y a des organisateurs en l'occurrence, des organisatrices aussi, il y a des organisations ouvrières, c'est-à-dire qu'il y a la CGTU, il y a un réseau de distribution, il y a des stratégies qui sont déjà pensées, c'est-à-dire que ça s'improvise pas non plus en fait de diffuser la production partout sur les marchés en contournant en fait les circuits de distribution traditionnels, et tout ça suppose des relais, ça suppose une solidarité, ça suppose des organisations ouvrières derrière. Il y a aussi un timing qui fait que du coup le patronat se retrouve. Alors il y a à la fois la solidarité qui va au-delà de Douarnenez et Sud-Finistère, mais qui va paralyser un peu les tentatives de contournement ou de neutralisation de la grève. Donc ça fait beaucoup beaucoup de conditions quand même tout ça effectivement pour qu'on ait un succès à la fin, malgré les conditions, les contraintes très dures dans lesquelles elle se mobilise, malgré la répression aussi très dure qu'elles subissent. Et c'est vrai que tout ça, c'est aussi un peu en creux, je dirais, dans le livre de Tiphaine Guéret, parce que c'est aussi des choses qui manquent. Alors, il y a l'enquête à...
Il y a des choses qui manquent dans la grève, dans le Douarnenez actuel.
Pas dans la grève en tant que telle, mais oui. En tout cas, il n'y a pas, il n'y a, oui. pas ou il n'y a plus cette culture ouvrière populaire, je dirais même, aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile à trouver. Alors, elle n'est pas introuvable, forcément, parce que ce qu'elle montre aussi, c'est qu'une journée de grève et de mobilisation collective, en fait, te fait faire des pas de géant là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que tu crées, en fait, aussi une histoire commune, tu crées de la solidarité commune. Alors, c'est une journée, donc ça renverse pas tout. Mais les obstacles, voilà, qu'il y a à surmonter, en fait, ils sont multiples, hein, pour arriver à quelque chose de cet ordre-là. En termes d'organisation et de syndicale, par exemple, de culture politique aussi commune, c'est des choses qui sont très, très en deçà de ce qui pouvait exister aussi en 1924, faut pas le nier. Après, il y a des choses intéressantes aussi, je pense, alors, dans l'enquête là, de Tiphaine Guéret, sur aussi les transformations du capitalisme industriel. Alors là, c'est de l'industrie agroalimentaire, donc on produit pas des bagnoles ou des téléviseurs, hein, mais on produit de la boîte de conserve. Et c'est intéressant aussi, elle en parle beaucoup de ça, hein, de la manière dont justement ce sont des familles qui sont historiquement implantées, les familles patronales, hein, alors, qui se présentent comme des entreprises familiales, mais ce qu'elle montre qu'en fait, c'est qu'il y a bien longtemps qu'elles ne le sont plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire, et ça, elle explique ça très bien, hein, c'est dans le cas de Chancerelle notamment, les usines Massenet aussi pour petits navires. En fait, elle dit, on a affaire à plutôt à des petites multinationales, en devenir. Et je peux peut-être lire ce passage-là, parce que alors là c'est sur l'usine Paulet, petit navire, hein, donc historiquement ils sont là depuis très longtemps à Douarnenez, mais elle rappelle, hein, page 26, qu'au cours des années 80, l'usine Paulet est progressivement vendue au tonnier américain Starkist, à leur filiale du groupe Heinz, qui ouvre des conserveries au Portugal, aux Seychelles et au Ghana. Afin d'entretenir l'image de la petite boîte historique familiale, l'usine portugaise, inaugurée en 1988, est baptisée Hyacinthe Parmentier. Et en réalité, Petit Navire a changé de registre, place désormais au capitalisme financier, résume Jacques Blanquen, historien de l'entreprise, et pas qu'un peu. En 2006, la boîte se retrouve aux mains de la banque d'investissement Lehman Brothers, qui la refourgue en 2010 à la multinationale thaïlandaise Thai Union, leader mondial du thon en boîte. Thai Union a été accusée par Greenpeace d'avoir recours à des méthodes de pêche destructrices et par l'agence de presse Associated Press d'exploiter par le biais de sous-traitants une main-d'œuvre issue de la traite d'êtres humains. Un classique en Thaïlande où près de l'intégralité des équipages travaillent sans contrat de travail. Et donc elle continue, hein, Tiphaine Guéret, en disant « Autant dire qu'il y a quelque chose de déroutant à entendre aujourd'hui les ouvrières de petits navires raconter leur journée de travail chez Paulet », dit-elle entre guillemets. Parce que près d'un siècle après la fondation de l'usine, la sardine a été délaissée au profit du thon et les ouvrières ont fait place aux machines, du moins en partie. En 2023, l'usine Paulet Petit Navire employait toujours 210 salariés, dont 170 à la production, malgré les licenciements qui ont clairsemé ses rangs et les rapports parfois tendus avec la direction. Le 16 avril 2024, cette dernière ayant annoncé le gel des salaires d'une partie des effectifs, en plein contexte inflationniste, une quarantaine de salariés ont débrayé. Hein, donc il y a toujours ça. Donc en fait, c'est aussi toute une histoire du capitalisme industriel français. Alors en ce qui concerne Chancerelle, donc ça c'est la marque connétable, alors elle part effectivement de c'est une entreprise qui a été fondée en 1853, donc qui était déjà présente, hein, en 1924. Donc fondée en 1853, pardon, l'entreprise est pourtant restée familiale selon ses communicants sur le site de l'entreprise, nous dit-elle. Alors les communicants, elle cite, en 2024, la 7e génération de Chancerelle tient les rênes d'une société qui encore aujourd'hui est la plus ancienne conserverie de poissons dans le monde, encore en activité, et reste leader du marché de la sardine au niveau national. Ça, c'est le marketing communiquant Chancerelle. Et elle continue ensuite, Tiphaine Guéret, en disant, voilà, le succès de Chancerelle, c'est d'abord celui des produits connétables, donc, qui saturent les rayons conserve des grandes surfaces, mais aussi Fardecmul, à destination des magasins bio, ou encore Pointe de Pinmar, enseigne haut de gamme commercialisée par correspondance, dans les boutiques Maison de la Sardine et dans les épiceries fines. Chancerelle maille aussi efficacement l'ensemble du marché, d'abord dispatché entre l'usine du port et celle de la Nougat, l'usine thon, l'usine sardine, les entrepôts de conditionnement, la boutique d'usine et les bureaux de la direction ont été intégralement réunis en 2015 sur le site de la zone industrielle, donc tout ça à Douarnenez. Derrière son image d'entreprise familiale à succès, Chancerelle a en fait déjà atteint le stade de la petite multinationale qui monte. Avec son chiffre d'affaires de 182 millions d'euros en 2023 et ses 115 millions de boîtes produites par an, l'entreprise emploie 1900 personnes, dont l'usine de Douarnenez ne représente plus aujourd'hui qu'un gros tiers. Alors après, c'est intéressant de voir l'internationalisation, en fait, hein, de la boîte. Parce qu'elle rappelle que Chancerelle, donc les sardines connétables, est en effet aussi actionnaire majoritaire d'une usine à Agadir, au Maroc, où sont produites les boîtes de conserve Belma, destinées à l'Afrique de l'Ouest, au marché américain et au département français d'outre-mer, ainsi que la conserverie Mardesic, au capital de laquelle elle entre en 2017 sur l'île croate de Dugi Otok. Et ce n'est pas tout, continue-t-elle. En 2018, Chancerelle investit 4 millions d'euros dans une usine de Laayoune, capitale du Sahara occidental, illégalement occupée par le Maroc depuis 1975 et le départ du colonisateur espagnol. Ce territoire a vu l'exode de la moitié de sa population remplacée par des colons marocains. Le Front Polisario, fer de lance de la lutte indépendantiste sahraoui, voit rouge et dépose plainte contre Chancerelle pour, je cite Polisario, « participation à un crime de colonisation ». Considérant que l'investissement de Chancerelle a pour finalité de créer des emplois pour la population marocaine pour une centaine de personnes. Le Front Polisario estime que l'entreprise se rendait coupable de transfert de population. À l'appui des revendications du mouvement, une ordonnance du tribunal de l'Union européenne acte que les accords de pêche entre l'Europe et le Royaume du Maroc ne s'appliquent pas aux eaux du Sahara occidental. Par conséquent, les indépendantistes sahraouis estiment que c'est à eux, et non aux autorités marocaines, de délivrer ou non à Chancerelle le droit de pêcher dans ces eaux. Choquée, entre guillemets, la conserverie Chancerelle rejette catégoriquement les accusations du Front Polisario et exprime le sentiment d'être un prétexte dans une affaire géopolitique en dehors de ses compétences. Commentaire de Tiffaine Guéret, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'on voit en fait comment en permanence, il y a différents niveaux qui se mêlent. Quoi. Le niveau du marketing, l'entreprise familiale, l'entreprise qui se transmet de génération en génération, l'enracinement, les produits de qualité, les marchés bio, les épiceries fines, etc. Et puis derrière, bah, en fait, voilà, le business continue. C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe de main entre Lehman Brothers, Thai Union, on investit au Maroc, on déboute le Front Polisario. Et alors, de fait... C'est pas forcément fondamentalement nouveau dans la logique, hein, mais c'est un bon, enfin ouais, c'est aussi une belle enquête, je trouve, de ce point de vue-là, parce que voilà, quand t'as une boîte de sardines connétable sur la table, voilà, de ta cuisine, voilà, il est pas immédiatement visible que t'as affaire effectivement à une production multinationale qui se déploie du Maroc, tu vois, en Afrique de l'Ouest, en passant par la Croatie ou le Sahara occidental, quoi. Et en fait, bon, bah, les ouvriers, alors ça change rien, si tu veux, au quotidien et aux témoignages qui sont collectés, hein, de la part des ouvrières. Mais effectivement, ça en dit long aussi sur le contexte aussi, hein, dans lequel ce quotidien se déploie. Alors bon, il y aurait beaucoup de pages intéressantes à on peut pas tout lire évidemment là, hein, mais à reprendre là-dessus. En tout cas, c'est une enquête que je conseille, moi, vivement. Hein, écouter gronder leur colère de Tiffaine Guéret pour...
Chez Libertalia.
Chez Libertalia. Et effectivement, en parallèle, hein, avec celui que tu présentais, Morane, puisque...
Dan Crignon, qui est vraiment génial à lire aussi. Ouais. Très réjouissant. Et voilà, en fait, on voit bien, je trouve, comment se monte... une culture politique aussi, c'est ça qui est vraiment mis en avant, et voilà, il est très bien à lire.
Voilà, et donc il faut aller à Douarnenez. Il faut aller à Douarnenez en hiver comme en été, et il faut lire effectivement ces deux livres-là pour comprendre où on est, où on est, d'où on vient et où l'on va, Michel.
Voilà. Alors, vous retrouverez donc l'émission sur Gurdulu et voilà. Donc, c'est une émission un peu spéciale. On vous l'a pas dit, mais José va déménager, donc on l'aura beaucoup plus rarement en régie. Donc, José pousse un cri de joie. Moi, je vais pleurer et Jean-Mathias va me parler une demi-heure
avec des sanglots dans la voix aussi.
Voilà. Et donc, on se retrouve normalement dans deux semaines et puis voilà.
Bonsoir, c'est GMC+, sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+. C'est Yves au micro. Vous me connaissez évidemment puisque vous avez ma voix sur JazzLib. Donc la dernière fois, il y avait une rediffusion d'une émission qui était j'ai même un trou, c'est pour vous dire. Donc voilà, enfin bref, peu importe, je voulais vous souhaiter une bonne année. J'espère que ce sera une année en musique. Et donc nous continuons ce soir de parler d'Eric Satie. Il y a beaucoup de choses à dire. Plus d'une cinquantaine d'œuvres. On en a écouté pas mal, évidemment, les principales. Mais il y a encore d'autres choses à dire. Alors, nous avions laissé Eric Satie là où il était, c'est-à-dire nous avions évoqué pas mal de choses sur sa vie. Je voudrais juste faire une petite remarque sur la période dans laquelle on se trouve et revenir, nous y reviendrons un petit peu plus tard, sur sa relation courte, on va dire même météorique, avec Suzanne Valadon, qui était une femme et une artiste particulière. Mais ce sera pour un petit peu plus tard. Je voulais revenir un petit peu en arrière sur la vie d'Eric Satie. Donc, j'avais à peu près tout dit, je dirais, dans les grandes lignes, hein, puisque évidemment il faut si vous avez envie de vous intéresser à ce personnage tout à fait atypique et plein d'humour et en même temps très très désespéré, il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de remettre les choses dans un contexte. En 1919, il rencontre l'écrivain poète Tristan Tzara, qui lui-même lui fait connaître d'autres personnages importants de l'époque, dont notamment beaucoup de dadaïstes, comme Francis Picabia, André Dorin, Marcel Duchamp, Man Ray, avec lequel il va fabriquer son premier ready-made, hein, comme on dit, c'est dès la première rencontre. Et donc, au début de l'année 1922, Satie va s'engager pour Tristan Tzara dans le différend qui est en train de se faire entre Tristan Tzara et André Breton au sujet de la nature vraie de l'avant-garde, tout en parvenant à maintenir des relations amicales dans les deux camps. Voilà. Henri-Pierre Rocher aurait dû lui organiser une tournée américaine, mais le projet a avorté. Voilà. Et en 1923, il est l'inspirateur de l'école d'Arcueil, de ce qu'on va appeler l'école d'Arcueil, groupe informel composé d'Henri Cliquet-Pleyel,